Dites, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Dites, Christ m'a affranchi pour la liberté. Vous me voyez ne pas être en costume aujourd'hui. C'est une question pratique. Mes costumes sont dans ma... prêts à être à voyager, vu que je pars demain très tôt au Nigeria, comme d'hab. Quelqu'un a dit comme d'hab. Dites, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Prenez Jean chapitre 8. Dites, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Notez qu'il n'a pas dit qu'on a été libéré. Hein. Il a dit qu'on a été affranchi pour une liberté. Vous avez trouvé Jean 8, verset 32. Prenons la version NBS, comme ça on est tous sur la même version. Dites-le encore une fois, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Vous avez trouvé Jean 8, 32. Gloire à Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra, pardon, libre. Prenons la version Darby. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dites, c'est pour la liberté que j'ai été affranchi. Dites, mes paroles sont puissantes. Galates 5, verset 1. Restons dans la version Darby, si vous voulez bien, parce que elle est un peu plus, parfois, compliquée à comprendre en termes français, parce que c'est du vieux français, et que les phrases sont longues, mais elle est très proche de l'original. Ce qu'a fait Darby, ce qui était assez impressionnant pour l'époque, c'est qu'il y a deux manières de traduire. Soit c'est une traduction littérale, où on traduit le plus proche possible au niveau du vocabulaire et du dictionnaire, ou alors c'est une traduction... de contexte, c'est-à-dire qu'on essaie de transmettre l'idée générale de l'auteur dans son mot, dans sa parole. Et Darby, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à faire les deux, dans beaucoup de cas, où il transmet l'idée originale de l'auteur quand il essaie de transmettre une information, tout en restant très proche de l'original. Et l'avantage, en fait, des gens qui restent proches de l'original, c'est qu'ils y mettent peu de leur interprétation théologique. Par exemple, il y a une différence biblique entre être libéré et être affranchi. D'accord ? Les Juifs ont été libérés du joug de l'esclavage. Nous, nous avons été affranchis en Jésus-Christ. C'est beaucoup plus profond. Là, être affranchi sous-entend de passer de esclave à homme libre. Ça veut dire qu'on change d'identité complète. Ok, vous avez trouvé Galates 5, 1. Notez ça. Christ nous a placés, soyez concentrés, vous ne vous laissez pas distraire par des petites choses comme ça. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Dites, c'est pour la liberté que j'étais affranchi. Donc Christ nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et derrière, il dit, c'est pour être dans la liberté que Christ nous a affranchis. Notez qu'il n'a pas dit vous êtes libéré ou vous êtes libre. Il a dit vous êtes affranchi et maintenant vous vivez dans la liberté. De quelle liberté Jésus-Christ parle-t-il ? Parce qu'il nous dit que c'est une liberté où, si on l'ignore, on retourne sous le joug de la servitude. Joug de la servitude. Joug de la servitude. Donc il dit il y a une vérité qui vient et qui nous affranchit. Et une fois qu'on vit dans cette liberté, parce que Christ est la vérité, n'est-ce pas ? Jean 14, 6. Prenez Jean 14, 6. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites, je connais la vérité. Et elle m'a affranchi. Et donc, je vis maintenant dans la liberté. Donc, qui est cette vérité qui vous a affranchi ? Dans quelle liberté vivez-vous maintenant ? En quoi consiste cette liberté ? Et vous avez noté que cette liberté, que si cette liberté n'est pas appliquée, le chrétien retourne sous le joug de la servitude. Le joug, c'était ce qu'on mettait sur un animal pour le faire avancer, pour le faire tirer des choses ou ce genre de choses-là. Un joug, c'est donc une chose lourde sur l'animal qui l'empêche d'aller où il veut et qui l'assujettit à des travaux forcés. Quel joug de servitude les gens vivent-ils aujourd'hui ? Il y a le péché, la maladie, la pauvreté. Donc il nous explique que qu'on sort de cette liberté pour laquelle il nous a affranchis. Et c'est ça que je trouve très intéressant parce que c'est nous qui sortons de cette liberté. Ce n'est pas lui qui nous désaffranchit. Et le truc intéressant, c'est que même si on sort de cette liberté, notre statut est toujours d'affranchi. Le fait de sortir de cette liberté ne veut pas dire qu'on change de statut aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait cette distinction entre être dans la liberté et être affranchi. Et d'en vivre quelque chose. Donc tous les chrétiens ont été affranchis. Combien d'entre eux vivent dans la liberté ? C'est la question. Vous avez trouvé Jean 14, 6 ? La Bible dit, Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc la personne qui nous a affranchis par sa vérité, c'est Christ. Dites, Christ m'a affranchi parce qu'il est la vérité et que je le connais. Regardez donc, très intéressant. Donc, il nous dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Précisément, c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, il parlait à des gens avant qu'ils soient morts et ressuscités. Donc, il parlait à des gens qui allaient expérimenter ça, dont nous. Dites, j'ai expérimenté ça. Donc maintenant, la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ et que nous avons été affranchis et que nous vivons dans la liberté. Ou plutôt que nous pouvons vivre dans la liberté, si on veut être exact. Parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc le fait qu'il le mentionne veut dire qu'on doit proactivement vivre dans cette liberté. Et que si nous ne vivons pas dans cette liberté, nous vivons sous le joug de la servitude. Quelle servitude y a-t-il dans votre vie aujourd'hui ? Quelle servitude y a-t-il ? Quelle servitude vous empêche de vivre la plénitude de Dieu ? Vous savez que ça peut être des servitudes qui sont contraires aux Écritures. Ça peut être des servitudes qui paraissent toutes bateaux, mais qui vous empêchent de vivre dans la liberté pour laquelle Christ vous a affranchi. La liberté d'être riche, la liberté d'être en bonne santé. Observons un peu plus les Écritures. Vous êtes prêts ? Dites, je suis prêt. Donc Christ a prévu que l'enfant de Dieu vive dans la liberté. C'est la raison pour laquelle il l'a affranchi. Mais le fait de vivre dans la liberté, c'est un concept, c'est un environnement. Ce n'est pas un statut. Être affranchi est un statut. Être dans la liberté n'est pas un statut. Regardez par exemple, quand ils ont libéré les esclaves en Amérique, qui d'ailleurs, soit dit en passant, hein, ce ne sont pas les personnes de gauche qui ont libéré les esclaves. Les esclaves en Amérique, leur libération, leur affranchissement est dû aux chrétiens. Et la Bible dit que tous les êtres humains, qu'il n'y a plus ni esclaves ni libres, car nous sommes un en Jésus-Christ, et c'est eux qui ont milité pour la libération des esclaves. C'est le Parti républicain qui avait libéré les esclaves, déjà à l'époque, avec des valeurs chrétiennes, déjà à l'époque. Et les démocrates, les gens de gauche à l'époque, s'étaient opposés à ça parce qu'ils s'opposaient au christianisme. Vous voyez un peu quand les gens lisent l'histoire avec justice. Donc les gens, ils sont arrivés, ils ont dit « Non, nous devons affranchir les esclaves parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. » Regardez les mouvements abolitionnistes. Hein. D'ailleurs, quel était l'hymne du mouvement abolitionniste ? C'était l'hymne de la République. Cet hymne de la République, elle disait « Gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, sa vérité est en marche. » Donc ils allaient combattre les esclavagistes en chantant ça. Vous saviez ça, peu de gens savent ce genre de choses. Pourquoi on cache ces vérités ? Parce que c'est le prince de ce monde qui est le diable, qui est le prince, le père du mensonge, et il cache cette vérité. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'une personne rentre en contact avec la vérité de Dieu, elle est libérée. Même au niveau pratique, des esclaves sont libérés quand ils rentrent en contact avec la vérité de Dieu. C'est vrai. Vous vous rendez compte ? Les esclaves en Amérique ont été libérés quand ils sont rentrés en contact avec la vérité de Dieu. Quand la vérité de Dieu a été prononcée par des gens ont parlé. Lincoln a commencé à parler la vérité de ce que Dieu dit et ça a libéré les esclaves. Mais, écoutez bien, certains ont été affranchis, mais ils vivaient toujours dans un statut et un environnement d'esclaves. Dites, j'ai été affranchi. Mais donc, Dieu nous a projetés dans une liberté. Prenez maintenant la Bible encore une fois. Il y a un passage des Écritures qui est très utilisé dans le milieu évangélique. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17. Dites le Saint-Esprit est venu et il est dans mon environnement et je suis dans le sien. Verset 17 de 2 Corinthiens 3. Or le Seigneur est l'Esprit. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc, la Bible nous dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Et là, il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et les gens ont souvent mal compris ça parce qu'ils prennent ce verset hors contexte et expliquent que là où est l'Esprit du Seigneur, des délivrances vont se produire, des démons vont sortir, les gens vont être libérés. Ce n'est pas ça du tout que la Bible nous explique. Soit dit en passant, aucun chrétien n'a besoin de guérison, aucun chrétien n'a besoin de délivrance, aucun chrétien n'a besoin de chasser d'être délivré d'un démon, pardon, parce que toutes ces choses, nous vivons dans l'environnement de liberté du Christ. Mais de quelle liberté il parle ? Vous êtes prêts ? Remontez un peu. Ok, prenons à partir du verset 14. Donc rappelez-vous qu'il parle du contexte, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dites, la liberté est accessible. Parce que l'Esprit du Seigneur est dans mon environnement. Il dit au verset 14, « Mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. » Donc, il explique, « Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or le Seigneur, on reprend. Dites, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et ensuite, il dit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a de la liberté. Or, nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, la gloire de Seigneur, c'est marrant. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en Esprit. Donc, il dit, l'Esprit. Là où il est, il y a la liberté. Et dans le contexte, il parle de la liberté de comprendre les Écritures. Parce qu'il dit, les gens lisent la loi, l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Ancien Testament. C'est un terme pour parler de tous les livres, donc de Genèse jusqu'à Malachie. Donc Malachie, c'est un livre de l'Ancien Testament comme Genèse ou Deutéronome, comme ça. C'était le nom d'un prophète qui s'appelait Malachie. Donc ils lisent ces choses-là. Et il y a un voile qui les empêche de comprendre les Écritures. Et là où est l'Esprit du Seigneur, quand ils regardent à l'Esprit du Seigneur, le voile est enlevé et on peut voir Christ. Dites, je vois Christ. Qu'est-ce qu'on a vu ? Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, il nous explique quelque chose d'intéressant. Il dit, car c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est quelle liberté qu'il parle ? C'est de quelle liberté qu'il parle ? Il parle de la liberté de comprendre et de vivre les Écritures, de voir Christ dans les Écritures et d'ensuite être transformé de gloire en gloire. Regardez, il continue. Dernier verset. Verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. Donc, ça veut dire que nous sommes censés contempler les Écritures, comprendre les Écritures. Vous voyez qu'on parle souvent de ce voile qui empêche de comprendre les Écritures. C'est vraiment spirituel. La Bible nous rappelle ça encore et encore. Et gloire à Dieu, ce voile a été enlevé de vos yeux et vous voyez. Mais j'aimerais que vous compreniez que l'image de Christ vous permet de vivre hors du joug. Vous suivez ? Donc, il nous dit, il y a un joug de servitude sous lequel le chrétien peut retourner s'il ne vit pas dans la plénitude de la compréhension de qui est Christ et de cette même image, parce qu'il est censé être transformé dans cette même image. Et là, il nous dit, nous devons contempler Christ dans les Écritures, contempler Christ. Et quand on contemple Christ dans les Écritures, qu'on passe du temps dans les Écritures, qu'on laisse la Bible nous former une image. Pourquoi ? Parce que quand on contemple Christ, on contemple Dieu. Et il dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc ça veut dire que cet Esprit du Seigneur nous guide dans les Écritures pour voir Christ et être transformé en cette même image. Qu'on voit Christ. Oh, qu'on voit Christ, qu'on voit Christ, qu'on voit Christ. On commence à avancer, on commence à comprendre qui est Dieu. On commence à voir de quelle manière Dieu aimait les gens. Et on peut voir Christ dans tous les passages de la Bible. Il n'y a pas un seul passage de la Bible dans lequel on ne peut pas voir Christ ou sa nature. Pas un seul. Même dans la Genèse, on voit Christ. C'est vrai. Même dans la Genèse, on voit Christ. Même dans Exode, on voit Christ. Dans tous les passages de l'Ancien Testament, Christ est mentionné abondamment. Pourquoi est-ce que dans les psaumes, quelques 700 ans avant que Jésus vienne, c'est dit on lui perça les mains et les pieds. Alors que la crucifixion n'existait même pas encore. C'est une image de Christ qui était déjà donnée. Et eux, c'est pour ça que l'apôtre Paul précise l'Ancien Testament, parce que eux, il parle des gens juifs qui refusent d'écouter Christ. Il lit ces choses-là et au lieu de dire « Le Seigneur Jésus est vivant, il est le vrai Dieu et je vais être transformé en lui », ils disent « Non, c'est de quelqu'un d'autre que ça parle ». Alors que non, la Bible est claire. Et donc Christ est cette image à laquelle vous vous reproduisez. Pourquoi ? Parce que vous contemplez. Vous contemplez Christ. Christ est votre vie, Christ est votre méditation, votre cogitation. Et ensuite, quand vous vivez comme ça, vous ne pouvez plus être sous le joug de la servitude. Ça veut dire que la maladie qui essaie de nous asservir, la pauvreté qui essaie de nous asservir, même, vous savez quoi ? Arrêtons de parler de pauvreté. Disons juste même être normal. Vraiment, ça nous a servi. Hein. Imaginez demain, je vous dis, ah, gloire à Dieu. L'Église va faire un don de 1 million au Rhapsody. Je m'attends à ce que vous participiez tous. Même en étant normal, on n'arrivera pas à un tel objectif. Amen. C'est normal. Vous savez, souvent on dit la maladie. Vous savez, même juste être en santé normale, ce n'est pas le but de Dieu. On est censé même progresser en santé. Vous savez que mon papa va mieux qu'il l'était encore il y a 5 ans. Il va de mieux en mieux. Une année même, ouais. De mieux en mieux. Alors que humainement, les gens vont dire, à l'âge de mon papa, 71 ans, ils disent, à 71 ans, il devrait commencer à ralentir, boiter. Alors que c'est le contraire qui se produit. Depuis qu'il a commencé à contempler l'image de Christ, il va mieux. Il y a 3 ans, il pouvait à peine marcher. Un peu plus, peut-être 4 ans, excuse-moi. Aller à l'hôpital, vite, régler ça. Oh, encore aller à l'hôpital pour si. Une ambulance qui doit. Et maintenant, il marche. Vraiment, hein? De mieux en mieux. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on contemple l'image de Christ. On visualise Christ. Et c'est dans les Écritures que cette image va vous être donnée. Parce que c'est le ministère du Saint-Esprit. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il glorifiera Christ. Pourquoi? Parce que quand on glorifie Christ dans la vie de quelqu'un, c'est pour ça que quand je glorifie Christ dans votre vie, quand je vous parle de Christ, quand je vous encourage à être focus sur Christ, c'est pas pour rien, parce que ça vous libère de ce joug. Parce que Christ vous a affranchi pour une liberté. Cette liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir contempler Christ. Dites, je contemple Christ. Et quand vous contemplez Christ, vous voyez ce personnage amusant, merveilleux, doux mais ferme. Jésus-Christ était la manifestation même de la masculinité, vous voyez? La manifestation même de la masculinité. La manifestation même de la masculinité. Et quand vous étudiez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu le Père se manifestait comme une mère des fois. C'est dans la Bible. Donc on voit la manifestation féminine, saine que Dieu a créée. Vous imaginez si les hommes et les femmes, au lieu de dire des bêtises, ils allaient regarder comment est-ce que les femmes de l'Ancien Testament étaient. Et elles commencent à aligner leur vie avec ça et le principe divin de Dieu. Et de l'autre côté, les hommes, on disait, comment est-ce que Christ était? Comment l'apôtre Paul était-il? Et qu'on commence à aligner notre masculinité avec cette réalité. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ, très doux, mais très ferme en même temps. Très puissant, très imposant. Oh, alléluia. Dites alléluia. Dites alléluia. Vous savez qu'on dit alléluia, ça veut dire béni soit le nom de l'Éternel, c'est juste. Hein? Oh, gloire, c'est peut-être gloire à Dieu, merci. Donc, vous voyez, nous devons contempler Christ. Dites, je contemple Christ dans les Écritures. Chaque fois qu'on lit la rhapsodie, Christ nous est transmis. Et quand vous avez les yeux sur Christ, vous vivez hors du joug et vous vous êtes transporté de victoire en victoire. Et vous savez quoi? Les choses que vous faites actuellement même, qui sont contraires au fait de contempler Christ, vous bloquent dans votre amélioration. Quand vous contemplez Christ, vous voyez à quel point il était riche, à quel point il était puissant, ou je devrais dire à quel point il est puissant, amen, gloire à Dieu parce qu'il est vivant, mais j'entendais qu'il était physiquement sur terre. Donc, mais maintenant, on contemple Christ, non pas quand il était sur terre, mais comme il est maintenant. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc ça veut dire que je contemple Christ et je commence à agir en conséquence. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? À combien d'âmes avez-vous parlé de Jésus-Christ? Chaque fois que j'en ai l'occasion, je vais mettre même moi le sujet sur la table quand je suis au fitness. On ne parle pas du tout de Christ et je vais dire, toi t'es chrétien? Non, je suis athée. Ça n'existe pas les athées. Hein. Il y a quelque chose. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose. Don't play with me. Don't play with me. Joue pas avec moi. Tu sais qu'il y a quelque chose. Et chaque fois, oh, peut-être que oui. Ouais, c'est vrai, sûrement quelque chose. Les gens savent très bien. C'est un jeu. Et est-ce que les gens vont voir? Parce que la Bible est claire. La Bible est claire. Il dit, nous sommes changés en cette même image, de gloire en gloire. Donc ça veut dire que plus vous méditez sur Christ, plus quand vous sortez, c'est Christ qui sort. Vous allez au fitness, c'est Christ qui va au fitness. Vous allez au travail, c'est Christ qui va au travail. Vous avez l'image de Jésus, l'image du Messie. Et ensuite, vous commencez à devenir comme cette image. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, 2 Corinthiens 4, 3 et 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui vont à leur perte parce que le diable a voilé leur visage et il ne voit pas la lumière de Christ qui est l'image de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Vous sortez, vous allez au magasin et vous avez médité, vous commencez à être comme Christ. Donc vous êtes le reflet de Christ, l'amour de Christ, cet amour liquide de Christ. Et c'est là que vous commencez à changer votre monde. Parce que vous êtes comme Christ, parce que c'est la vérité. Ça, c'est l'aspect légal. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais l'aspect vital, c'est que nous contemplons cette réalité. Et on l'a vu, l'amour est... On vous rappelait dimanche, hein, on l'a vu. Pour ceux qui étaient là dimanche, l'amour est accompli. Quand on comprend que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible pour vous de s'énerver contre quelqu'un. Je ne parle pas de corriger une personne avec fermeté. Hein. Je parle d'être énervé. Vous voyez? Vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, vous l'aidez. Vous voyez quelqu'un qui est malade, vous la guérissez. Vous parlez de Dieu partout. Jésus annonçait le royaume. Est-ce que nous annonçons le royaume? Toujours, de partout, vous parlez de Christ. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touché à mon anniversaire, quand vous deux, là, vous êtes allés vers une fille et vous lui avez commencé à lui parler de Jésus. Parce qu'elle avait demandé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle a vu Jésus-Christ? Oui. Elle a vu Jésus-Christ en nous. Amen. Ça, vous voyez, c'est ça qu'on fait dans cette église Christ Embassy. Ambassade du Christ, pardon. Grâce et foi. C'est qu'on enseigne Christ. Christ est le point central. Et les gens après, combien vous connaissez? Pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, c'est-à-dire nous trois. Pas ceux qui sont chrétiens depuis une année, là. Ou moins. Combien de chrétiens nés de nouveau, depuis un an à peu près, vont parler du Christ et s'organisent et même discutent à la fin du culte sur comment on va amener les âmes à Christ? La plupart, non, des chrétiens de 20 ans ne font même pas ça. Dites « Je contemple Christ ». Dites « Grâce à cette contemplation, je deviens comme le Christ ». Et je suis changé en cette même image. Et j'influence mon monde avec la vérité divine. Amen. Dites, je suis prospère. Gloire à Dieu. Donc cette image vient à l'intérieur de vous et vous êtes transformé de gloire en gloire. Donc il n'y a pas de limite. Alléluia. J'avais eu une expérience une fois spirituelle. Et je suis pas. Vous avez remarqué que je parle peu de mes expériences spirituelles. Il y a une raison. C'est que mes expériences spirituelles ne doivent pas être votre fondation. C'est la Bible qui doit être votre fondation. Et j'ai eu des expériences spirituelles où j'ai été ravi spirituellement dans le monde de l'esprit. D'accord ? J'ai eu des expériences spirituelles que peu de gens pourraient vraiment même comprendre avec leur sens humain. Et une expérience spirituelle que j'avais eue, c'était Benny Hinn, un pasteur américain, qui s'est approché d'une personne pour prier pour elle. Et quand il s'est approché d'elle, bien que je voyais avec mes yeux physiques l'homme de Dieu, j'ai eu une vision. Donc c'était assez bizarre, c'est comme si on avait mis deux visions l'une sur l'autre, sans que l'autre efface l'autre, vous voyez? Donc je voyais physiquement Benny Hinn, mais dans l'esprit j'ai vu Christ, qui venait pour imposer les mains sur la personne. Et à ce moment-là, je suis tombé. La puissance de Dieu m'a envahi et je suis tombé bas, en pleurant. Je vous ai dit, messieurs, on peut pleurer sous trois situations. Si on se pète les deux bras, si on perd un membre de famille immédiat, pleurer en public, pardon. Ou si vous avez une épiphanie, ça veut dire si vous avez une manifestation spirituelle de Dieu qui est si forte que vous ne pouvez pas tenir. C'est les trois seules raisons, et ça, c'était une des raisons. Donc, vous pouvez voir Christ dans les gens. Donc, il avait atteint un tel niveau où j'ai vu Christ. J'ai vu Jésus au travers de lui. Et ce n'était pas physique, hein. Son visage n'a pas physiquement changé, vous comprenez? Je le voyais toujours comme je vous vois là. Mais j'ai vu Jésus-Christ quand il allait pour imposer les mains à cette femme. Pourquoi? C'était l'amour de Dieu manifesté, vous voyez? Dites Christ en moi. L'espérance de la gloire pour les autres. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes forts et puissants, victorieux, plus que victorieux. C'est nous, moins de conquérants. Nous allons gagner de toutes parts. Nous continuons à gagner de toutes parts. Continuons à gagner de toutes parts. Nous ne faisons qu'avancer. Nous sommes transformés en cette même image. Qui est Jésus? Qui est ce Jésus? Qui est-il? Et c'est ce qu'on va faire ce 28 septembre. On va présenter ce Jésus-Christ, cette image de Dieu va être présentée. Et les gens viendront à Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas résister à ça. Il y aura cette voix intérieure qui leur dira de venir. Et ils le feront. Continuez à prier avec intensité, invoquez sur eux la conviction du Saint-Esprit. Invoquez abondamment le nom du Seigneur Jésus. Je vous ai déjà dit, ils vont vivre dans notre monde. Nous n'allons pas vivre dans le leur. C'est notre monde. Nous assujettissons notre monde à Christ pour la victoire éternelle. Parce qu'il y a une seule chose qui compte, c'est Dieu, rien d'autre. Merci pour vos petits mots dans le livre. Certains étaient très, très, très touchant. Des gens qui expriment à quel point j'ai changé leur vie. Alors gloire à Dieu pour ça. Et je n'oublie pas que c'est Christ qui est derrière ça. C'est le Seigneur qui est derrière ça. Quelqu'un a écrit, c'est grâce à toi que j'ai des enfants. Comment est-ce qu'on répond à ça? C'est beau, bien sûr, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je nie pas le fait que j'ai été utilisé par Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quel genre d'impact on peut avoir sur la vie des gens. Quel genre d'impact est-ce que, et sur la vie des gens et sur la vie des choses. On l'a vu dans le Rhapsodie aujourd'hui, Dieu s'inquiétait même des animaux de Ninive. C'est touchant ça. Hein? Sachant que Ninive, ce n'était pas un endroit juif, c'était donc des animaux impurs pour les juifs de l'époque. Et Dieu suis prospère. Et j'aimerais que vous continuiez à prendre au sérieux. Je vous ai dit, le chrétien doit être connu pour trois choses. Numéro un, la prière. Enfin, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est, je dis numéro un, mais c'est les trois au même niveau. Être une personne de prière. Numéro deux, une personne qui est proche de la maison de Dieu sur terre. Oui, l'église, qui soutient l'église locale. Et numéro trois, une personne qui est dans la parole. Amen. Vous êtes plus que victorieux. Nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que conquérants. En toute chose, la Bible dit, nous sommes plus que conquérants. Nous ne pouvons que réussir. Donc ne retournons pas sous le joug, sous la servitude, mais restons dans la liberté en continuant de contempler Christ. Continuez à contempler Christ, méditez Christ, pensez à Christ. Christ est la solution. Peignez cette image de Dieu en vous. Voyez comment il était. Agissez en conséquence. Vous donnez gratuitement. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Dites, je suis plus que vainqueur. Je vous laisse préparer vos offrandes si vous avez des offrandes. Si vous avez besoin du QR code.